le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Claude Ngoyi Mujinga. Il est le premier président de l'association des exploitants miniers artisanaux du Katanga. Il est parmi les pionniers de l'exploitation minière artisanale dans la province du Katanga. Monsieur Claude Mujinga, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci madame, bonjour.
Voilà, avec vous dans cet entretien, nous parlerons de votre personne. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi. On va parler aussi de cette structure qui regroupe les exploitants miniers artisanaux au Katanga. Ça va faire plus de 15 ans que cette association existe. Avant, ça n'existait pas au Katanga.
Pas du tout.
Voilà, on va en parler dans cette émission, mais commençons par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né à Luena en 1947, le 2 avril.
Tout à fait.
Et c'est à Luena où vous avez grandi?
Oui, j'ai grandi là-bas juste le temps de mon école primaire, et puis j'ai évolué à Kolwezi. Là, j'ai fait mon école secondaire à l'Athénée, et puis je suis venu aussi à Lubumbashi. J'ai fait l'SPA à l'université de Lubumbashi, là où j'ai terminé en 1970.
Et donc, vous avez un diplôme universitaire en sciences politiques et administratives.
Oui.
Alors, après vos études, qu'est-ce que vous avez fait?
Et on est passé par les Jérémines, puisque à cette époque-là, en tout cas, et dès qu'on terminait quelque part de gauche à droite, en tout cas, on convergeait vers la Jérémine.
C'est là où... Directement. C'était pas compliqué. On avait besoin de la main d'œuvre.
Oui, d'accord, oui. Mais après une bonne sélection, tout ça, et je suis passé à la Jécamine. Là, j'ai pu quand même faire un bon chemin. Mais à moi-même, il y avait toujours cet esprit libéral. Oui, j'étais toujours tenté de faire quelque chose indépendamment d'une société, de contraintes, comme ça, je ne voulais pas.
Mm-hmm.
C'est ainsi que, après 7 ans, auprès de la Jécamine, je suis parti de moi-même là-bas pour me lancer dans...
Alors que la Jécamine, c'était une grande entreprise qui payait très bien ses agents.
Tout à fait. Je suis parti de la Jécamine en bon moment, à telle enseigne que, par après, lorsque la Jécamine était à genoux, les amis que j'avais laissés là-bas m'ont dit que c'est pas possible, comment tu avais cette vision-là, tu as précédé les événements. C'est comme si je savais que, en tout cas, l'avenir était compromettant.
Mais quand vous avez quitté la Jécamine, est-ce que les gens n'étaient pas étonnés de cette attitude-là, alors que tout le monde voulait travailler à la Jécamine?
Effectivement.
Vous décidez de quitter, de démissionner.
Effectivement, ils étaient étonnés, c'est-à-dire, après mon congé annuel, je dis faire ma démission, que j'ai laissé à un ami, je dis, écoute, il ne faudra pas que je sois considéré comme déserteur. Donc, dès que vous allez constater que le jour que je devais reprendre, déposer la lettre, moi j'étais déjà dans d'autres coins là-bas pour me lancer dans des affaires personnelles.
Monsieur Claude Ngoyi Mujinga, parlez-nous un peu de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Mon père était quand même un grand commerçant à l'époque coloniale. C'est dans les années 60, avec l'accession de notre pays à l'indépendance, qu'il y a eu quand même des perturbations au niveau du pays, avec la sécession katangaise. Comme moi je suis Moulubakat, que les Mouluba avaient opté pour le nationalisme, alors ça fait beaucoup de problèmes avec la sécession, tout ça. Et c'est ainsi que finalement, cet exercice est donc... De mon père s'est écroulé, comme cette famille avait soutenu le nationalisme, alors ça nous a coûté cher, tout ça. Bon, c'est ainsi que tout est tombé en moule. Voilà, c'est un peu ça.
Vous avez galéré un peu?
Ouais, qu'est-ce que vous voulez?
Et tout ça parce que papa soutenait le nationalisme.
Oui, ouais. Mm-hmm. Ouais.
Alors que
les
tout le monde
soutenu la sécession.
Ouais. Mais vous personnellement, vous étiez, j'imagine que vous étiez encore enfant.
Ouais.
Mais aujourd'hui, vous vous dites que c'était, est-ce que c'était une bonne idée de faire cette sécession?
Bon, écoutez, madame, la politique, c'est pas mon propre, j'aime pas tellement. Vous savez, quand je fais des analyses jusqu'à aujourd'hui, je me dis, écoute, les mâles de notre pays viennent de l'extérieur. Puisque quand je dois donner ma petite pensée, mon analyse là-dessus, au pays ici, j'ai toujours dit, lorsque je discute avec des amis, j'ai dit, écoute, nous pouvons faire des réunions de conférences nationales, des forums qui peuvent réunir même les 60 millions ou 70 millions de Congolais. Jamais il y aura une solution. Jamais. C'est du temps perdu, puisque nous nous réunissons au pays pendant que la solution est à l'extérieur du pays. Vous voyez, même les mal de 1960, vous savez, la sécession là-bas, c'est toujours l'extérieur. Tous les problèmes que nous avons connus, les moulets, les Somialo, les ceci, tout c'est la politique. Tout vient, même actuellement, toutes les guerres que nous connaissons, ce sont des problèmes qui ne sont pas nés au pays, mais qui sont fomentés de l'extérieur. C'est pour cela que nous nous réunissons ici pour trouver une solution, mais la solution elle-même, elle est en dehors du pays.
Monsieur Claude Ngoï, quel est le souvenir qui vous a marqué pendant votre enfance?
Et une grande souffrance, un peu négatif, une grande souffrance, puisque mon père était bien parti dans le commerce et tout a été chamboulé avec la guerre que nous avions connue en 60-61 avec la sécession.
Ça vous a marqué?
Oui, ça m'a beaucoup marqué négativement.
Vous êtes marié?
Oui, marié, père de plusieurs enfants, de petits-enfants et arrière-petits.
Ah bon? Enfants, ouais. Et après la GECAMIN, vous avez travaillé à la société Amato.
Oui.
C'est
oui.
Quoi?
C'est-à-dire, comme l'apprentissage est toujours compliqué, et lorsque je me suis lancé dans les affaires, et ça a pu marcher pendant 2 ans, et finalement, j'ai connu des déboires, une situation désastreuse, à telle enseigne que ça a vraiment ébranlé ma propre famille. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai essayé de tenter pour qu'on me reprenne à la GECAMIN, ça n'a pas été. C'est ainsi qu'il y avait une opportunité au niveau d'une grande société Amato de cette époque-là, spécialisée dans les tissus, tout ça, comme Saint-Esquin. Alors, je suis rentré là-bas, mais en moi-même, ça bouillonnait toujours, le libéralisme, j'ai dit, et tout ça. Alors, je suis resté là-bas pendant 3 ans, et je suis parti encore.
Malgré vous, vous êtes resté là, malgré vous.
Je suis encore parti toujours dans les affaires, et c'est ainsi que...
Et quand vous avez quitté Amato, vous avez monté vos propres affaires.
J'ai monté une société, j'ai monté une société qui évolue très bien, tout ça.
Jusqu'à aujourd'hui?
Oui, jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Une société spécialisée dans quoi?
Toujours dans les mines.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes parmi les pionniers de l'exploitation minière artisanale au Katanga. Vous êtes le premier président de l'association des exploitants miniers artisanaux du Katanga. Parlez-nous un peu de cette association.
Oui, c'est-à-dire, madame, l'idée nous est venue avec des amis pour dire, écoute, faisons quelque chose. Et c'était au moment où l'AFDEL venait... d'entrer au pays, tout ça, avec le mot d'ordre que le chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, avait lancé sur son leitmotiv, là, pour dire, écoutez, prenez-vous en charge, soyez responsables, tout ça. Alors, avec les amis, nous sommes dit tantôt une expérience, et nous avions fait des propositions au feu ministre Kibasa de l'époque, qui a vraiment agréé notre idée. C'est ainsi qu'il nous a demandé d'être ensemble, et une vingtaine de personnes nous sommes retrouvés. C'est ainsi que nous avions créé EMAC, officiellement le 18 février 1999.
EMAC qui signifie exploitant minier artisanaux du Katanga.
Oui, c'est-à-dire c'est une ASBL, mais à vocation syndicale, et qui réunissait tous les exploitants artisanaux dans les secteurs.
Mais vous-même, vous avez travaillé dans l'exploitation artisanale?
Travailler, nous sommes partis de cette association. Vous voyez, moi j'avais déjà, en tant que leader, dans l'entreprise que j'avais montée, j'avais déjà une petite expérience là-dessus. C'est ainsi qu'avec les amis, nous avons créé cette association pour encadrer les exploitants miniers artisanaux. Et il y avait des catégories, c'est-à-dire il y avait des négociants qui pouvaient encadrer les creuseurs. Et il y avait aussi des membres d'honneur. C'était ça le composant de cette association.
Les encadrer, c'est-à-dire quoi? Ils travaillaient en désordre? Il n'y avait pas une hiérarchie?
Non, il n'y avait pas. Je vous ai dit qu'avant cette date-là, il n'y avait pas. Pourquoi il n'y avait pas? Au Katanga, il y avait quand même une loi spéciale qui datait depuis l'époque coloniale. Tout ce qu'il y a comme richesse du sous-sol dans les mines, ça appartenait à l'Union minière. L'Union minière, ils avaient légué à la Gécamines. Et lors de la Deuxième République, cette loi a existé, elle était en exercice, c'est ainsi qu'on ne pouvait pas toucher au sous-sol. À telle enseigne qu'on vous attrapait quelque part avec un sac de minerais et on vous saisissait et vos biens, meubles et immeubles. C'est devenu le bien de l'État. Vous voyez, donc tout a été libéralisé par ces courants-là, on dirait des révolutionnaires. Lorsque nous sommes mis ensemble, nous avions introduit des demandes au niveau du gouvernement central de Kinshasa. Et nous nous sommes expliqués pourquoi on ne comprenait pas. Comment voulez-vous, nos compatriotes de Kivu, de la province orientale, tout ça, et le Dé-Kassai, là, il y avait des négociants, il y avait des exploitants des anneaux, qui dans l'or, qui dans le cobalt, le cassitérite, de tout le temps. Mais au Katanga, ça ne se faisait pas. C'est ainsi que vraiment ce son de cloche est arrivé d'une manière positive. Au niveau des autorités d'AFDEL à cette époque-là, d'abord ils ne comprenaient pas à telle enseigne que nous étions même arrêtés, séquestrés, je vous assure, à cette époque-là, au niveau de l'ANR, ils ne comprenaient pas.
Lorsque vous avez introduit la demande pour créer votre association?
Oui.
Les autorités étaient contre?
Ils étaient contre, ils ne comprenaient pas, puisque ce sont les biens de la Gécamines, les sous-sols appartiennent à la Gécamines, vous ne pouvez pas.
Mais malgré cela, vous n'avez pas baissé les bras?
Non, on n'a pas baissé les bras, ça nous a coûté un peu cette humiliation, arrêter tout ça. Bon, finalement, ils ont compris que non.
Eh bien, qu'est-ce qui est fait qu'ils puissent finalement céder?
Et pour qu'ils puissent céder, il y a eu l'implication du ministre de l'époque, Kibasa Maliba, qui s'est investi, qui leur a expliqué lors d'un conseil de ministres au niveau national, pour dire que non, ça existe partout. Laissez-les aussi être maîtres par rapport au mode du chef de l'État. Et ça s'est fait dans toutes les provinces de la République, pourquoi pas au Katanga. C'est ainsi qu'ils ont compris, ils ont autorisé maintenant à monter cette association.
Est-ce qu'elle est bien fondée de cette association, M. Claude Ngoï?
Elle est bien fondée, Madame. Nous en sommes très très fiers aujourd'hui. Les bien fondés, vous savez, cette jeunesse désœuvrée, cette jeunesse oisive qui ne savait pas où aller, a trouvé maintenant une visibilité, a trouvé quand même une protection quelque part. Nous l'avons organisée, nous l'avons incitée au lieu d'aller voler, casser. Vous savez, madame, avant la création de cette association, ici à Lubumbashi, vous ne pouvez pas dormir tranquillement sans pour autant être visité. Donc il y avait des vols, des rideaux, rien que des rideaux. À 3h du matin, vous entendez beaucoup de bruit, c'est juste on vient vous voler les rideaux.
C'est parce que les jeunes n'étaient pas occupés?
Les gens, surtout cette jeunesse-là, n'étaient pas occupés. Les ampoules ici, les veilleuses, donc ampoules réverbères. Aujourd'hui, quand je vois ça me touche, les gens ne comprennent pas d'où nous venons. Une ampoule, une veilleuse dehors, sur une ampoule mirale, ça n'existait pas ici à Lubumbashi. Ça n'existait pas, madame. Donc le voleur venait juste pour arracher une ampoule. Vous vous rendez compte à quel niveau on était arrivé? Donc je l'ai dit comme ça, il n'y a personne qui peut nous contredire. Et c'était une catastrophe dans la ville de Lubumbashi. Mais pas à Lubumbashi, au Katanga, toutes les grandes villes, Likasi, Kolwezi, c'était une catastrophe.
Ouais, et aujourd'hui grâce à votre association, les jeunes ont trouvé une occupation.
Nous avons créé de l'emploi, madame. Nous sommes partis à cette époque-là, nous avions sensibilisé les gens, et nous nous sommes lancés dans des sites qui dataient de là où la Gécamines avait fait des explorations dans les années 57, 58. Alors nous sommes allés revaloriser tous ces sites-là, notamment Kalukuluku, Kinsevere, partout là-bas, beaucoup de sites. Nous, on a mis des creuseurs là-bas, nous les avions enregistrés. Alors on a fait des partenariats avec différentes entreprises de la place. Et les grandes entreprises, presque toutes les entreprises ici, je les cite, donc Gécamines, Chemaf, Somica, aujourd'hui ce sont des grandes entreprises. Elles ont commencé avec nous. La Gécamines a été alimentée avec nous.
Alors, mais Monsieur Claude, les gens, les observateurs, beaucoup d'observateurs et même la population déplorent quand même les conditions de travail des creuseurs artisanaux.
Ah oui, ils ont raison. De toute façon, il faut nous approcher pour une bonne analyse. Vous savez, madame, vous pouvez avoir toutes ces bonnes idées, tous ces bons projets, mais quand tout cela ne sont pas accompagnés avec des moyens financiers, et vraiment c'est difficile que ça puisse réussir. Vous savez, le code minier, lorsqu'il a été dressé, lorsqu'il a été promulgué, il parlait de nous. Mais le législateur n'a pas fait beaucoup d'attention dans le secteur artisanal. Vous savez, par une simple déclaration, une proposition du gouverneur, maintenant le multinational peut nous attribuer des zones d'exploitation artisanale. En nous octroyant de tels sites, de tels espaces, maintenant c'est à nous d'aller faire des partenariats avec différentes entreprises pour nous doter des moyens, de manière que nous puissions tenir dans ces partenariats. Beaucoup d'entreprises se méfiaient puisqu'elles voulaient que nous puissions aller plus loin avec un titre minier. Ça pouvait aller. Là, ils pouvaient mettre beaucoup de moyens. Le creuseur doit être équipé de bottes,
justement, voilà.
De salopettes, de
mais c'est pas ce qu'on constate sur place, sur terrain.
Tout ça, c'est un manque de moyens, vous voyez. C'est-à-dire, nos partenaires, ils ne trouvaient pas, donc, la sécurité, ils n'étaient pas sécurisés. En mettant beaucoup de moyens, quelqu'un d'autre peut venir nous délocaliser. Vous vous rendez compte, madame, au départ là-bas, lorsqu'on avait promulgué la loi, avant même qu'on la promulgue, nous avions fait des propositions pour dire, écoute, dans chaque grande agglomération, comme Lubumbashi, trouver un espace là où on peut mettre les creuseurs. Comme ça, ils n'ont pas des kilomètres à parcourir. Bon, les autres entreprises qui viennent, les industriels, vous pouvez les éloigner des grandes agglomérations. Là, ils seront obligés d'exploiter, de faire des routes à des certes agricoles. Ça va aider aussi les paysans dans les environs. Nous avons fait des propositions dans ce sens-là. Mais on n'a pas été écoutés.
Et ça, vous déplorez.
Ça, nous déplorons. Oui, puisqu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Vous voyez, là, ça pouvait nous aider.
Vous déplorez parce que vous ont arraché le marché ou
Nous déplorons puisque le gouvernement, à cette époque-là, n'ont pas fait attention pour voir tout étudier, donc les études de faisabilité, l'impact, tout ça, c'est que ça. Comment les creuseurs, maintenant là, on vient de nous donner des sites à Malembankoulou. Comment les creuseurs peuvent s'organiser pour aller là-bas?
Vous recrutez sur place là-bas?
D'accord, nous recrutons sur place et tous les creuseurs, des milliers autour de Lubumbashi, où ils vont aller, madame. Oui, on nous accuse de tous les maux que nous rentrons dans des sites qui ne sont pas les nôtres, mais où pouvons-nous aller? 140 000 creuseurs au niveau du Katanga, plus de 2 millions de creuseurs, je ne parle pas seulement du Katanga.
Mais c'est vrai que vous entrez dans des sites qui ne vous appartiennent pas?
Oui, madame.
Mais ça, c'est une infraction, monsieur.
Oui, tout à fait. Nous n'encourageons pas, madame. Effectivement, c'est quelque chose que nous déplorons, c'est le désespoir maintenant. Vous voyez, nous rentrons chez autrui, les creuseurs, bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer ça, nous nous battons pour freiner de tels comportements, de telle manière, mais c'est difficile, vous savez, des milliers de gens comme ça, qui sont désespérés, qui ne savent pas où aller, mais ils rentrent, et lorsque nous rentrons chez autrui là-bas, vous savez, madame, c'est scandaleux. Il y a des concessionnaires, beaucoup, des milliers même, non j'exagère, peut-être des centaines, puisque tout le pays a été quadrillé en carré minier. Tout le pays en carré minier. Il y a des carrés partout dans le pays ici, dont peut-être certains concessionnaires, propriétaires, à qui on avait attribué ces sites, n'ont jamais mis même pied au Congo. Mais c'est leur concession, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent juste le gardinage là-bas, juste surveiller comme ça, ils ne mettent pas en valeur. Alors lorsque le creuseur voit comme ça, de gauche à droite, il rentre pour creuser le minerai et aller le revendre aux différentes entreprises.
Mais c'est pas des choses à encourager quand même,
pas
parce que c'est des concessions privées.
Tout à fait.
Et ces gens-là, ils savent à quel moment ils vont venir exploiter ça.
Tout
c'est pas
fait.
Une raison pour que les creuseurs s'introduisent et puis fassent ce qu'ils veulent.
C'est ce que nous faisons, madame. C'est ce que nous faisons, mais ce n'est pas facile. Ça, on ne peut pas. C'est à déplorer. Nous ne pouvons pas encourager de telles pratiques.
Comment ça, c'est pas facile alors que votre association encadre ces creuseurs artisanaux?
Tout à fait. Nous les encadrons, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que même, nous n'avons pas assez de moyens, vous savez. Donc, Bien que tous ces sites-là, toutes ces concessions, il y a même des chiens policiers, tout ça, qui gardent tout ça. Mais les creuseurs, ils s'arrangent des fois avec ceux-là qui surveillent tout ça et ça pose problème. Vous voyez, ça rentre
et
comme ça.
Et s'il y a un accident qui survient dans une des concessions, à qui reviendra la faute? Vous n'allez pas demander au propriétaire de la concession de oui. prendre en charge, par exemple, les
creuseurs? Non, pas du tout, puisque des illégaux comme ça, donc dès qu'ils posent des actes comme ça irresponsables, ça retombe à nous, nous qui sommes responsables, mais c'est pas facile.
Mais qu'est-ce que vous faites pour essayer d'éviter ça, Monsieur Claude Ngoyi?
Nous battons toujours. Nous avons notre propre police que nous appelons Policar, donc la police des carrières, de coopératives, de toutes ces associations-là, et qui veillent même notamment avec les moyens de bord pour empêcher les creuseurs d'aller chez autrui, tout ça. Et c'est pour cela que ce n'est pas tellement un drame, mais il y a des cas comme ça qui arrivent de gauche à droite, mais ce n'est pas d'une manière générale.
On va se détendre un peu. Comment vous passez vos moments de détente quand vous n'êtes pas dans vos dossiers de mines, des exploitants miniers? Comment vous vous détendez?
Et me détendre, en tout cas, madame, bon, on n'a plus de l'âge, hein. On n'a plus de l'âge. Moi, je me détends avec mes petits-enfants, que j'adore beaucoup. Mm-hmm. J'ai toujours dit, c'est ça, la richesse de l'Africain. Quand des petits-enfants qui viennent me monter sur les genoux, sur les dos, comme ça me fait un grand plaisir. Mais le mal, il est toujours là, permanent, ancré en nous. C'est de voir un peu, un ces quatre matins, qu'on donne des titres miniers. J'insiste beaucoup et à tous ces gens-là qui se sont donné la peine d'encadrer cette jeunesse, que ce soit en Bujumaï, à Walikale et tout ça, à Kananga, qu'on donne un peu des titres pour voir un peu s'il n'y aura pas de classe moyenne. Puisqu'en nous donnant des titres, nous allons aussi booster, nous allons créer des petites entreprises qui, dans la fabrique de même des chaussettes, de mouchoirs de poche, de concentrés, de tomates, tout ça. Il y a de bonnes idées, les gens sont là, mais sans moyens, nous ne pouvons pas y arriver. C'est une opportunité, les mines. Et c'est à pleurer, je vous assure, comme au Katanga. Vous vous rendez compte que on s'est dit, puisque nous nous voyons, nous nous connaissons ici, et j'ai l'impression qu'il y a une classe moyenne d'expatriés qu'on a créée sans le savoir, peut-être sans le vouloir. Puisque nos amis expatriés, nous avions vécu ensemble, on nous a vus, nous avions évolué ensemble, tout ça, dans peut-être des situations piteuses là, aujourd'hui millionnaires.
Et vous arrivez d'écouter de la musique de temps en temps?
Oui, ça détend, ça relaxe, oui.
Quel genre de musique? Les anciens succès?
Surtout.
Grand Calais, Luambo.
Et Taboulé, de notre époque. Hein.
Mm-hmm. Quelle est la chanson que vous avez beaucoup écoutée? La chanson qui vous fait du bien quand vous mettez à la maison et puis vous l'écoutez entouré de vos petits-enfants?
Mais il n'y a pas une chanson spécifique de notre époque. Quand on la balance comme ça, ça va. Maintenant, en tout cas, j'ai un faible pour la musique religieuse, oui. Uh-huh. Très très faible pour la musique religieuse. Uh-huh. Mais si on balançait une musique de jazz de l'époque, de taboulé,
ça va vous faire plaisir.
Oui, tout à fait.
Limbolingo mama, ngai na lango lisusu la mouwe, ngana la pakinai, mokolo na balaki, na kozwa lisusu te bakrizo ya lamu, na prete serment epayi ya mama. Bolingo na suye nde mobeswe, mwanango kitoko atonda boboto, ngai na lula lisusu nani mama. Masamba ngai lelo na sumuki likolo ya muzi mwana ngoro na linga kala na bo mwana tobela kima ya nzina misapi ya makolo lelo lianze koti ngai na motema muzi mama tuna royo babela mayanzi baebi sayo ndenge esalaka mokosa muzi ngai na boyimbeli ya monganga Omuzie, na kolemba yote mama, Omuzie mama, Muzie, ata na bala mama, Omuzie mama, Muzi la linga kaye, pena lingi yo mama, Omuzie mama, Muzie.
Claude Ngoyi, je rappelle que vous êtes le premier président de l'association EMAC. C'est une association qui regroupe les exploitants miniers artisanaux du Katanga. C'est une association à vocation syndicale et en pratique l'activité commerciale. C'est la première structure au Katanga regroupant les artisans miniers, activité jamais connue au Katanga avant l'arrivée de l'AFDEL. C'est ça,
fait,
c'est ça que
fait,
vous
madame.
Avez dit. Et actuellement, vous êtes DG de la coopérative CMKK. C'est quoi?
Oui, CMKK, c'est-à-dire par rapport à la loi minière, lorsque nous tous nous étions dans cette association ASBL et MAC, c'est-à-dire nous avions existé même avant que la loi soit promulguée. Donc nous étions nés officiellement en 1999.
Mais avant ça, donc, ça existait déjà, mais officieusement.
Officieusement, mm-hmm. Ouais, ouais. C'est-à-dire que nous avions précédé la loi qui a été promulguée en 2002 par le chef de l'État. Donc, dans cette loi qui a été promulguée, il nous a été demandé de commuer maintenant en coopérative. Ouais, puisqu'une ASBL ne pouvait pas faire le commerce. Vous voyez, c'est ainsi que il fallait commuer maintenant en coopérative. Voilà pourquoi, à partir de cette loi-là, de ce décret et loi, il a été créé de coopératives. Il y en a plus de 60 maintenant dans notre province du Katanga, et d'où maintenant la coopérative CMKK, que je suis en train de piloter, a été née. Et c'est la première coopérative aussi à être agréée au niveau national.
Alors, donc c'est une coopérative qui regroupe... toujours des créateurs artisanaux.
Exactement, exactement. Maintenant, là, ils sont opérateurs économiques, c'est-à-dire, ils sont regroupés aussi par dizaines, par une vingtaine, tout ça, mais encadrés par notre coopérative, CMKK.
Et donc EMAC fait partie aussi de la CMKK? EMAC, l'association?
Non, EMAC est resté comme une structure syndicale. Oui, une structure syndicale. C'est-à-dire, toutes les coopératives du Katanga, librement, elles peuvent adhérer pour être syndiquées, pour être défendues, en cas de besoin, par cette association-là.
Et vous rencontrez beaucoup de difficultés avec les creuseurs?
Oui, nous rencontrons dans toute société humaine, les difficultés ne manquent pas. Lorsqu'il nous a été demandé maintenant de muer en coopérative, nous avons créé toutes ces coopératives, nous avions introduit des demandes de sites au niveau du ministère national, alors il y a des sites qui nous ont été attribués. Je reviens à la question que vous m'avez posée, c'est que ça dit CMKK, c'est-à-dire c'est une coopérative minière, Madini Kwakilimo. C'est-à-dire les mines pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que dans notre idée initiale, on voulait transformer les creuseurs en agriculteurs. C'est-à-dire le dissuader pour dire, écoute, les mines s'épuisent. on peut nous donner un site, une carrière en mine, une carrière des mines, mais vous pouvez l'exploiter pendant 5 ans, 10 ans, les mines s'épuisent dès que vous arrivez comme ça à une situation pareille. Qu'est-ce que vous pouvez, il ne faut pas croiser les bras. C'est pour cela que pendant qu'ils sont en train de travailler, ils doivent déjà penser à avoir des concessions agricoles de gauche à droite. Là, nous sommes en partenariat avec des moniteurs agricoles pour les accompagner dans ce secteur-là agricole.
Et aujourd'hui, le Katanga compte combien de créseurs artisanaux?
En 2010, nous étions dans une grande réunion au niveau de Kinshasa, organisée par l'Union européenne au niveau du ministère. C'est là où ils avaient sorti même l'évaluation, puisque, vous savez, le recensement, ce n'est pas une mince affaire, hein, une mince affaire. Et alors, cette ONG-là, financée par l'Union européenne, est arrivée à ressortir dans le recensement le nombre de créseurs au niveau du Katanga, qu'ils ont évalué à 140 000 créseurs.
Mais la coopérative, elle ne fait pas de recensement, vous n'avez pas...
On n'a pas assez de moyens. Nous misons toujours sur des évaluations comme ça. On n'a pas assez de moyens. Ouais, ouais. Nous sommes en train de tâtonner. L'erreur, c'est quoi? Nous maintenons ça au niveau de CMKK, au niveau de notre syndicat EMAC. L'erreur est partie lorsque les gouvernants ne nous ont pas facilité à nous doter des titres miniers. Vous savez, puisque présentement, je ne pense de tout, je pense, à moins que je m'abuse, aujourd'hui, il n'y a aucune coopérative au niveau du Katanga qui a un titre minier. Je ne trouve pas ça normal, vous savez. Le titre, ça vous donne tous les atouts pour négocier avec les investisseurs à force égale, vous savez. Aujourd'hui, le partenariat que nous faisons, ce partenariat est déséquilibré. Pourquoi? Parce que le partenaire vient, il met les moyens et il vous impose les conditions, puisqu'il prend beaucoup de risques, comme nous n'avons pas de titres miniers. Vous voyez, il fallait nous octroyer des titres miniers, et c'est là où nous avions espéré même l'émergence de la classe moyenne.
Mais qu'est-ce qui bloque, M. Claude Ngoï? Pourquoi on ne vous octroie pas un titre minier?
Est-ce que c'est au niveau de la loi minière? Est-ce que les gouvernants ne font pas attention dans ces secteurs? Est-ce que la question reste posée? Vous savez, madame, quand vous parcourez le code minier, moi, j'ai toujours dit, le seul cadeau qu'il y a, c'est l'exploitation minière artisanale. C'est les cadeaux, bien que délicats, ces cadeaux-là, qu'on a donnés aux Congolais. Oui. Vous savez, par l'octroi d'un titre à un Congolais dans l'artisanat, je vous assure, c'est le booster, c'est le propulser, au même titre que les autres entreprises minières, vous voyez. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça bloque. La loi prévoit à ce qu'on donne le titre minier aux Congolais, au travers l'exploitation minière artisanale, qu'on donne ces titres-là.
Mais pas seulement au Katanga. Vous êtes en contact avec le ministère des Mines pour essayer de comprendre un peu pourquoi ça bloque?
Oui, madame, après 15 ans d'expérience dans ce secteur, la lutte a été âpre et dure, toujours avec la même recherche de choses d'arriver au titre minier. C'est seulement maintenant, avec l'actuel ministre des Mines, son Excellence Monsieur Kabaloulou, qui nous a donné un petit espoir, une espérance. Maintenant, là, je vous dis, puisque d'ici là, je crois que peut-être au mois de janvier ici, il nous a été demandé de constituer des dossiers au niveau de notre bureau CESCAM du Katanga, pour la demande de permis des titres miniers. Nous espérons que cette fois-ci, nous allons y arriver. Et si jamais on y arrivait, ce sera vraiment un autre départ dans notre secteur. Sans titre, madame, nous allons tournoyer, on va nous accuser de tous les maux, ils ne verront pas. Il y en a qui nous accusent, qui ne voient même pas d'impact. Vous vous rendez compte, on crée 2 millions d'emplois au niveau national. 2 millions d'emplois. Aucune entreprise ne crée ça. Et ils ne voient pas d'impact. Avec un dollar par creuseur dans l'économie de notre pays, ça fait déjà 2 millions par jour de dollars. Ils ne voient pas d'impact. Je ne sais pas, c'est ce que le chef de l'État disait, et si vous ne m'aimez pas, jugez-moi même pas les actes. 2 millions d'emplois créés, quelle entreprise, madame, peut créer ça aujourd'hui en République démocratique du Congo? Il n'y a que l'exploitation minière artisanale. C'est Fekodi, en Bujimaï, qui crée des emplois avec les creuseurs. C'est EMAC au niveau du Katanga, les autres coopératives CMKK qui créent de l'emploi. À chaque seconde, on ne refuse jamais s'il y a quelqu'un qui vient. Par sa force de bras, on lui donne une barre de mine, une pioche, une pelle et il commence le boulot. Il n'y a que l'exploitation minière artisanale qui crée de l'emploi pour des jeunes qui sont aptes. Vous voyez, comme ça nous brisons cette oisivité, cette fainéantise et tout ça. Mais entendre le gouvernant, oh non, on ne voit même pas d'impact de l'exploitation minière artisanale. Non, 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 on se disait, c'est pas possible. Et ils sont aveugles, sourds, ou je ne sais pas moi. C'est compliqué, madame, c'est compliqué.
Voilà, monsieur Claude Ngoï, nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier message à lancer à nos autorités par rapport à la situation de l'exploitation ou des exploitants miniers artisanaux.
Oui, tout à fait, madame. Donc, le dernier mot, je ne peux que lancer cet appel pathétique au gouvernant, mais vaut tard que jamais si ces gouvernants peuvent vraiment avoir cet amour patriotique, qu'ils essayent un peu de booster les Congolais, nos compatriotes. Je ne parle pas seulement du Katanga, même dans d'autres provinces, qu'ils essayent un peu en leur octroyant des titres miniers. Madame, une maison sans titre cadastral, ce n'est pas votre maison. Nous sommes chez autrui, nous sommes affaiblis. Les zones d'exploitation artisanale qu'on nous donne, c'est un blocage, ça ne nous avance pas. Les investisseurs se méfient. Qui nous donnent aussi les titres miniers, au même titre qu'ils en ont donné à plus de 200 entreprises dans notre province du Katanga. Ils ont des titres miniers qu'on nous donne aussi dans le secteur artisanal, des titres miniers. C'est notre pleur, c'est notre revendication, mais on ne baisse pas les bras, nous nous battrons, nous gardons espoir que tôt ou tard, je crois que les autorités vont nous aider, parce qu'on fait confiance.
Je vous remercie, Monsieur Claude Ngoï Mushinga.
C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé au secteur artisanal.
Merci beaucoup. Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Claude Ngoï Mushinga. Il est le premier président de l'association des exploitants miniers artisanaux du Katanga, première structure au Katanga regroupant les exploitants miniers artisanaux. Il est parmi les pionniers de l'exploitation minière dans la province du Katanga. Merci à Paula Munanga qui est à la technique au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bon titre de programme sous la fréquence de la paix. Thank you.